deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers d'Evaluna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois.
Écrit libre.
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 Tout au long de l'année, Sylvie Bauger nous a conduits sur les chemins de la nouvelle. En quelques consignes, elle nous a entraînés vers une fable. Là, le narrateur de votre nouvelle sera à distance par rapport au récit. Ailleurs, les personnages seront en mouvement, pris dans une action où l'émotion reste tendue vers un but. Vous pouvez user, voire abuser des dialogues. Les phrases peuvent être longues ou courtes, mais toujours sans fioritures efficaces. Ainsi, les consignes variaient d'une séance à l'autre. Un jour, un auteur de nouvelles tel Hemingway, une autre, un portrait d'une exposition. À chaque séquence, nous avions notre monde à imaginer, à réinventer. Aujourd'hui, nous avons puisé dans nos réserves de petits trésors et ressorti l'accordéon de Louise Jalut, une longue marche par temps pluvieux, un oublié de l'histoire, une destination impérative, une anecdote de bonté. Laissons les mots s'envoler.
Gardons le cap. Qu'est-ce qui lui a pris de laisser les clés à Patrick, le fils du jardinier? Jusque-là, c'était la tête de Sir Francis que je recouvrais. Il m'avait choisi chez Harper & Harper, un chapelier de très bonne facture à Rosemont, spécialisé depuis 1875 dans les couvre-chefs typically British. Fait-main, 100% laine vierge, ma renommée est grande, ma famille coiffe en outre toute la royal family. Daddy a recouvert la tête du prince Philippe et mon cousin, celle de Charles, so what? Alors, m'être retrouvé sur la caboche de cet écervelé de Patrick, quel déconvenu. Cet effronté un peu bas du front, il faut bien le dire, a fait éruption en trombe dans le cottage pour s'abriter d'une pluie battante. Il y a pourtant des dépendances autour du cottage pour les domestiques. Il m'a pris dans l'entrée sans crier gare et sans plus de cérémonie tel un galure ordinaire m'a vissé sur son crâne. Aucune éducation. J'ai failli en perdre tous mes chevrons, des rouges au marron sans oublier les bleus. Mon filet intérieur se déchire d'amertume. Quelle honte! Par Saint-Georges, mais dans quel monde vit-on? Puis Patrick a enfourché sa bicyclette, à tombeau ouvert, direction le pub du village. My lord, me retrouver dans cette taverne avec tous ces énergumènes qui trinquaient à coups de pinte en s'égosillant sur Swinglow avec force gestes obscènes, il y a de quoi en manger son chapeau si j'ose cette boutade. Non, vraiment, ce n'est pas ma cup of tea. Désolé. J'avais l'habitude de brunch au country club sur les greens, ou bien de garden party au milieu de l'aristocratie britannique après une partie de polo de cricket. Alors, les gargotes, très peu pour moi, my dear. Eh oui, que voulez-vous, je suis très old school. Et si les pique-niques avec Sir Francis après la chasse étaient virils, ils se déroulaient au sein de la haute société et avaient un tout autre panache. Je me rappelle mes escapades le dimanche matin de bonne heure, quand Sir Francis, après avoir enfilé ses bottes, son barbeau graissé, ceint son cou de sa chaude écharpe Burberry, complétait sa tenue de gentleman farmer par la touche finale, c'est-à-dire votre serviteur. Mieux qu'un simple bibi, je suis la casquette anglaise, traditionnelle de très bonne lignée. The casquette, my dear. Puis, Sir Francis sautait dans sa Range Rover et nous partions battre la campagne, les sentiers forestiers accompagnés de ses épagnols, Scott et Fitzgerald. J'étais de toutes les balades. Le tweed au vent m'imprégnant des senteurs boisées et moussues, légèrement irisées de rosée, enivrées, exaltées. Aucune brise ne pouvait m'emporter. On ne faisait qu'un, Sir Francis et moi. Une amitié fusionnelle, une complicité sans faille. Il faut dire que j'étais au plus près. Je pouvais ressentir le moindre battement de ses tempes, le moindre froncement de ses sourcils, la sueur qui perlait lors de battues harassantes ou des frissons dus au frimas de l'aube. La semaine, il me laissait pour me retrouver chaque week-end. Moi, je l'attendais patiemment, sans nervosité, mais avec flegme. Nulle inquiétude, je savais le retrouver. Perché sur le porte-manteau, je me balançais doucement en l'attendant. Mon voisin, le Panama, m'enviait en attendant l'été. Délicat, il était le gage de flânerie nonchalante et moi, plus rustique, celui d'aventure trépidante. Aucune rivalité entre nous, bien au contraire. Une relation exquise de séduction mutuelle. Une chose nous réunissait, nous adorions tous les deux Sir Francis. Serein, nous gardions la demeure en quelque sorte. Mais là, bonté divine, j'exècre ce freluquet de Patrick m'avoir infligé cette humiliation. Comble de la disgrâce, en sortant du pub, il m'avait coiffé la visière à l'arrière sur la nuque. Très inconvenant. Faute de goût magistral, quel grossier personnage. J'en appelle à la congrégation, au saint patron des casquettes de l'aristocratie. Nous avions déjà passé, par le passé, lutté contre les casquettes prolétariennes des guinguettes, les vulgaires gapettes de la classe ouvrière, des petites gens, chauffeurs, livreurs, chefs de train, portiers et autres besogneux. Nous avions dû faire alliance avec les casquettes des marins, réputées pour leur pugnacité. Je sais qu'en ce moment, nous menons bataille contre le grand remplacement par des casquettes américaines de baseball, siglées, portées par des jeunes, à l'allure déconcertante, et même des chefs d'État. Il est de nobles combats, mais là, le mien semble bien ridicule. Je croyais être à l'abri, loin des cités, de leur tumulte. L'entre-soi me protégeait. Mais c'était sans compter sur cet idiot de Patrick qui, de retour du pub, pédalait tête baissée. Quand une bourrasque m'a emporté, le misérable ne s'est même pas arrêté. Par tous les saints, abandonné comme une vieille chaussette qui bouloche, une serpillière. Quelle déconvenue! Moi, une casquette de ma condition, projetée dans les buissons épineux qui ont écorché mon feutre, mais encore plus mon amour-propre. My goodness! 4 jours et 4 nuits grelottant à l'agonie. Never complain, never explain, mais quand même. Pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment jusqu'alors inconnu, mon insignifiance. Je n'avais plus de force quand mes valeureux amis Scott et Fitzgerald m'ont retrouvé et rapporté à Sir Francis. Ils me mordillaient, mais je ne pouvais pas en vouloir à mes sauveurs. De plus, engourdi par le froid, je ne sentais plus rien. Patrick s'est fait sévèrement tancer. Maintenant, lavé, brossé avec affection, je sèche auprès de l'âtre. Sir Francis lit un roman. Ma fibre se pelotonne et je m'abandonne. Tout est rentré dans l'ordre. Je peux me laisser aller à des rêves d'hiver, désormais tendre la nuit.
FM 91.2, les ateliers des Valounais.
Bonté. Mon fauteuil, sur lequel un voile de rideau est posé, c'est celui près de la fenêtre. Ce fauteuil est mon confident. Je m'y sens bien, assise à regarder les couples marcher dans la rue, se saluer d'un petit hochement de tête et entendre le fouet qui claque aux oreilles de chevaux tirant calèche sur les pavés de Paris, femmes assises à l'arrière, ombrelles déployées. Son velours est très doux. Sans cesse, ma main caresse l'accoudoir. J'aimerais vous inviter à l'essayer. Vraiment, cela me ferait plaisir. Je serais debout près de vous. Vous, assis, ma main sur la vôtre, vous fumeriez une cigarette parfumée. Nous écouterions religieusement le pianiste jouer si divinement une valse de Chopin. Autour de nous, flûte de champagne à la main ou tenant délicatement une petite merveille de douceur avant de la porter à leurs lèvres. Les invités s'écarteraient pour laisser passer le plateau porté par un esclave noir. Mais je ne peux pas. Vous êtes cet esclave. Votre place ne peut être dans ce fauteuil, et je n'ai pas le droit d'être amoureuse de vous, et vous avez encore moins le droit de me regarder. Vous devez effacer ce sourire d'envie, un peu dédaigneux cependant. Moi, j'aime bien vous regarder. Je le fais discrètement, sans un battement de sourcils. J'interdis à mes lèvres de frémir. J'ai ma dignité. Pourtant, vos gants blancs masquant vos mains laissent mon imagination me troubler. La jaquette vous va à merveille. Vous vous redressez pour paraître plus grand, au point de vous arquer, lorsque d'un balancement d'épaule, vous vous glissez entre deux invités pour tendre votre plateau. Vous êtes inimitable, mais si attendrissant par vos gestes et votre retenue pour ne pas déranger. Être présent sans exister,
au milieu de ce monde qui ne saurait comprendre vos sourires, vos joues où naît et meurt dans la même seconde une fossette. Bien sûr, il peut arriver que le geste maladroit d'une dame ou d'un homme, si sûr de leur maintien, si passionné par une conversation futile, si certain d'être important, que votre plateau soit bousculé et que du champagne s'écoule doucement dans le creux d'un corsage, accompagnant le bruit d'une flûte qui se brise sur la marqueterie. Alors, d'une grimace, d'un mouvement désordonné, mais calculé, vous faites semblant de vous envoler, vous fermez les yeux, comme, attendant une punition, les coups de bâton qui font si rire. Une valse commence, et j'ose vous inviter, à l'insu de tout le monde. Mes pieds sont minuscules et les vôtres si grands glissent. Et un, et deux, et trois. Votre bras me retient par la taille, ma main est maintenue dans la vôtre, et un, et deux, et trois. Je ferme les yeux, vous me guidez, la salle tourne, les chandeliers se perdent, et un, et deux, et trois. Vous me lâchez, je m'écroule sur mon fauteuil, l'ocre du velours me rassure. Superbe en queue de pie, vous ne savez pas que nous avons valsé. Vous ne savez pas que vous avez déposé votre plateau pour cet instant d'illusion. Vous me manquez lorsque parfois je vous prête à mes amis pour animer un goûter d'enfant. Vous êtes leur clown et ils peuvent monter sur votre dos. Vous faites le tour du salon ou du jardin suivant les saisons, à quatre pattes, faisant mine de tomber, acceptant de recevoir des seaux d'eau. Les parents vous regardent d'un air attendrissant, fiers d'eux-mêmes lorsqu'ils vous offrent quelques sous pour vous récompenser d'avoir distrait leurs enfants. Parfois, je vous surprends, vous me regardez, votre sourire est magique, sans retenue, vos dents si blanches sans masque et l'envie me vient de vous affranchir. Une nuit, je me suis levée, je vous ai deviné dans chaque pièce, votre présence m'enveloppait, tandis que vous dormiez près des chevaux dans l'écurie, j'avais envie de vous rejoindre et j'ai compris cette nuit-là que vous ne pouviez rester. Le matin, lorsque vous êtes présenté pour votre service, je vous ai tourné le dos et j'ai demandé à mon père à ce que vous quittiez notre maison. Il m'a cru lorsque je lui ai indiqué que vous aviez voulu me toucher les seins. Une heure plus tard, vous n'étiez plus là. Vous êtes parti avec un petit baluchon et, parce que nous étions humains, avec un peu de nourriture et une petite somme d'argent pour que vous puissiez trouver un abri pour quelques jours. Je vous vois, je suis confortablement installée dans mon fauteuil. Le thé dans ma tasse est légèrement âcre, exactement comme je l'aime. Il fait chaud, la cheminée dégage une douce chaleur et régulièrement, une bûche vient soutenir son feu. Je n'aimerais pas être dehors. Un vent glacial oblige les passants à relever le col de leur manteau, à baisser la tête, et vous avez l'air d'avoir si froid, malgré votre couverture sur vos épaules. Je vous vois très bien de ma fenêtre sous cette porte cochère. À vos pieds, privés de chaussures, quelques pièces jetées par des passants, lorsque vous tentez de mimer un esclave recevant une correction pour faire rire. Je suis un peu triste. Je suis fâchée après moi de vous savoir dehors. Je n'aurais pas dû. Mais que pouvais-je faire de l'amour que je vous portais ?
Une ancienne maison bourgeoise en meulière, début de siècle, avec son allée d'accès, bordée de buis taillés bas, qui mène au perron en encorbellement, puis sous la marquise, en forme de coquille. De chaque côté de l'escalier de pierre, une plate-bande, garnie de rosiers bien entretenus et de diverses plantes rampantes et couvrantes. J'habite à droite de l'escalier, et elle, à gauche. Au printemps dernier, nous nous sommes promis rendez-vous d'amour. Depuis, je me prépare. J'attends le moment propice dans la saison en lustrant ma coquille, en parfumant mon intérieur, en lissant régulièrement mes antennes. Et la nuit, je rêve de nos retrouvailles, de la tendre humidité de l'herbe qui accueillera nos ébats. La pluie glissera le long de nos coquilles et nos corps pourront enfin s'entrelacer. J'ai bien résisté à la saison sèche en évitant les phases d'entretien par le jardinier aux mains lourdes. J'ai su me mettre à l'abri aussi du fil meurtrier du coupe-bordure. J'ai bien calculé. Il me faudra la journée pour traverser cet escalier. Je m'entraîne. Je ne me sens pas spécialement lent, mais la réputation de ma race n'est pas usurpée et les marches en pierre sont bien longues. Ce matin, je sors mes antennes, je palpe l'air, je mesure l'humidité. La pluie est présente pour un moment. Alors, je démarre. Lentement, mais sûrement, je quitte mon coin d'herbe et je sens les brins me caresser le ventre. Ça m'émoustille. J'arrive rapidement au bord de la marche de pierre et je sais que je dois redoubler de vigilance, prêt à rentrer en coquille dès l'apparition des grands pieds. Deux fois, j'échappe au pire. Mais au troisième grand pied, je suis heurtée. Je roule, je boule, mais sans gravité. Pour moi, c'est un signe, d'autant que j'ai largement dépassé la moitié de mon trajet de pierre. La pluie ne s'arrête pas, alors je fonce. Je suis fatiguée, je suis affamée, rien n'a grignoté, pas un brin d'herbe sur cette pierre. Je suis épuisée. Mais soudain, je sens l'herbe proche. Je redresse mes antennes, je frétille. Elle doit être tout près et belle comme un cœur. Pris d'un sursaut de vitalité, je force, je fonce. C'est alors qu'un grand pied que je n'ai pas vu venir s'immobilise au-dessus de moi. Je me sens transportée dans les airs. Je vole et je vois le carré d'herbe de ma promise s'éloigner à toute vitesse. J'entends un bruit assourdissant. « Attention, toi! Tu pourrais te faire écraser !» Alors, à grande vitesse et sans rien contrôler, je fais le chemin inverse. Je m'insurge, je suis outrée, mais je suis impuissant. Je suis finalement déposée de mon côté du perron, exactement d'où je suis partie. Du plus fort de ma petite voix d'escargot, je m'égosille et je hurle un superbe « Connard !» Mais tout est à recommencer.
JTFM 91.2, les ateliers des Valounets.
L'oublié de l'histoire. Dans cette grande maison tranquille, les mémoires se perdent au fil du temps. La résidence des oiseaux est une grande volière, surtout pour mon protégé, tombé chez nous après une grande immigration. C'est aujourd'hui un petit vieux. Verra-t-il l'arrivée du 21e siècle? Il est si fragile. Au fond de moi, j'espère le fêter le mois prochain, il aura 100 ans. Malheureusement, il part sans bruit en 1994. Ce fut mon premier mort sans tombe, sans fleurs ni couronne. Ces 28 ans passés ici m'ont donné des bribes de son histoire. Ce petit homme usait squelettique qui ne me... Ces 28 ans passés ici m'ont donné des bribes de son histoire. Ce petit homme usé, squelettique, ne me demandait peu d'efforts pour le lever, le soigner aussi. Je m'attardais à l'écouter. Sa voix chevrotante est parfois pudique, mais ses petits yeux finissent de révéler le non-dit. Il a un regard qui en dit long. Après avoir lavé son corps imberbe, je coiffe ses cheveux longs, je les tire sur un crâne sans calvitie, je les tresse en une queue si fine qu'elle ne peut peser sur son dos rond. Il se distingue par là de mes autres patients que je dois raser. Lorsque j'entre dans sa chambre, je suis piégé. Son cadre exotique me fait voyager et flotte une espièglerie qui me fait sourire. Mais ce sont aussi ses mains qui me parlent. Pas à la façon des sourds et muets qui signent, mais parce que la callosité de ses paumes explique la vraie lecture de ses lignes de vie et de chance. J'admire son outil de labeur rouillé, cabossé, tenant encore fermement la poignée de sa canne lors de nos promenades dans le parc. Sur le banc, près du tilleul, il raconte. Sans en avoir conscience, j'ai noté son histoire dans ma mémoire. Aujourd'hui, 30 ans après ce coma de l'esprit, je le ressuscite. Il a creusé des tranchées en 1916, des mètres cubes de terre transportés pour ensevelir des corps fumants. Il en donne des coups de pioche pour percer l'écorce terrestre, mais du sang se déverse dans un compost de pourriture qui engraisse les vers de terre. Lui, tel un rat d'égout, baigne dans la fange marécageuse de la Somme, loin du travail noble et gratifiant du laboureur des rizières. Au bout de ce chemin, qu'il voulait rural, il est affecté à une blanchisserie. Avant de faire bouillir les linges des blessés, les draps mortuaires, il doit séparer les chairs collées au linge jauni de graisse, jetées dans des seaux nauséabonds, les os sciés des membres écrasés pour les brûler. Une période vécue dans les vapeurs de Javel, où il n'a rien à vomir, sinon une bile de rage. Cependant, des maladies se propagent, la grippe espagnole emporte bien de ses camarades. Il démine le terrain, sans connaître véritablement le danger. Certains sautent tels de petits cobayes et roulent dans la souricière des barbelés. Sous les obus et les gaz, il court sans respirer, la civière à bout de bras, mais les blessés sont légers car ils s'envolent, telle une nuée d'anges. Engagé volontaire, il a servi sans rechigner. À la fin de l'horreur, il n'est plus qu'un numéro de matricule, une traduction anglaise de son idéogramme natal. Beaucoup de ses camarades d'infortune décèdent à l'hôpital du Native Labour, tous oubliés et jamais remerciés pour cet essentiel labour qui n'a jamais donné de belles récoltes pendant 16 saisons. C'est alors qu'il s'implante dans ce paysage, dans ce lieu désolé. Il trouve la paix. Le trachome qui éteint petit à petit ses yeux lui peint partiellement la plaine de Noyal-sur-Mer, d'un rouge coquelicot. Il arrose parfois ses anciens champs de bataille aux fleurs sacrées de larmes de sang. À la mort de ses chiens, il quitte le hameau de Nolette et les deux lions du bord de la route menant au cimetière chinois, édifié en 1921. Il s'éloigne des 849 hommes de son pays ici inhumé. En sage et humblement, il trouve refuge à la résidence des oiseaux. Voici l'épilogue incroyable. En ce début d'année 2024, un article de journal du 4 février au titre qui me stupéfait. Les travailleurs chinois auront leur monument. Dans le bronze se moule la vie de mon petit père, son travail mis à l'honneur, étrangement sorti de l'oubli. Je le remarque et le reconnais. Tu tiens une traverse, dans un autre mouvement une pioche, et en dernier une civière. Tu es là, et bien là, reconnu en chair de bronze, devant le plus grand cimetière chinois de France et d'Europe. Grâce à toi, entre les 849 tombes blanches, rafraîchies par les larmes du souvenir, poussent des rosiers.
Vous venez d'entendre « Gardons le cap » de Muriel Bequet, lu par elle-même. Ensuite, « Bonté » de Yves Hamon, lu par Claire Hamon. « L'escargot » de Dominique Desprez, lu par Anaïs Frappard. Et enfin, « L'oublié de l'histoire » de Marie-Hélène Grimaud, lu par Bernard Zieler. Swing.